Essai! Essai de Cristiano Dominici, c'est un génie!
Essai!
Pas vrai de pas vrai! Deux fois ça, c'est pas vrai!
Chut! Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième but
d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute!
Chute de Mélenchon, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard est parti. L'Express, le TGV est parti. Shepard, 9,58, record du monde.
Pédalage et défonçage sans les mamelles du Tour de France. Alors, il se défonce car la ligne est encore loin.
Bien le bonjour, vous êtes bien sur Principe Actif 102.4 FM, principeactif.net. Si vous nous écoutez partout dans le monde, via le web, lundi 22 mai 2017, 12h30, 13h, comme toutes les semaines, on va revenir sur l'actualité sportive d'Évreux, de sa région et un peu plus loin peut-être, si nous avons le temps. Bonjour monsieur Damienski.
Bonjour patron.
Comment que ça va ?
Je vais bien, je vous félicite, on ne rentrera pas dans les détails, mais je suis ravi de vous retrouver en ce jour pimpant et prompt au début de l'émission.
Aujourd'hui, on est bon, en attendant que Linguinche arrive comme d'habitude, presque à l'heure. On a un invité, on va dire, ça fait longtemps qu'on l'a pas reçu, mais ça fait longtemps qu'on n'a plus d'invité non plus dans le Café des Sports avec le format expresso, on va dire. Un petit mot sur le générique, il t'évoque quoi ?
Oh, des jolis moments du sport. Donc, et puis ces phrases et cette réaction de Georges Eddy étaient plutôt sympas.
C'est vrai.
Et voilà, monsieur Fabrice Lefrançois, pour les supporters de l'ALM Basket.
Puis ceux qui suivent le basket en
règle
générale.
Ceux qui suivent le basket le connaissent bien, mais on parle aussi aux supporters, aux sixièmes, parce que voilà, ils doivent écouter avec envie ce que tu vas nous dire dans les minutes à suivre. Et Mister Coin Coin.
Salut tout le monde. Je suppose que tu m'as pas encore mis de son.
Oh bah attends, si,
non,
c'est
bien.
Non, mais t'as pas mis de casque.
C'est pour ça. Salut tout le monde.
Allez, quelques résultats. On va parler du sport local et puis après, on reviendra très largement sur l'ALM Basket avec cette fin de saison.
Improbable.
Voilà, surprenante, mais on va prendre la surprise avec plaisir. Et puis,
carrément. Ouais.
On laissera les boudeurs et les râleurs dire « Oui, mais pourquoi on va en play-off ? Ça sert à quoi ? De toute façon, la ville ne jouera pas le jeu, on n'aura pas les moyens. » Et on joue au basket, et puis après on voit, et puis faut profiter de ce qu'il y a à prendre.
Et puis, il faut se rappeler aussi quelque chose, c'est que la dernière fois qu'une équipe était montée à la surprise générale en Pro A, c'était Besançon qui avait fait pareil, le même type qui s'était qualifié la toute dernière journée alors qu'on ne l'attendait pas. C'était l'année où Évreux était monté en Pro A, je veux dire en 95. Et Besançon avait été fini 8e et avait été la surprise, était monté dans la foulée. Voilà, c'est juste une petite. Et on ne les attendait vraiment pas. Et en fait, il y avait à peu près le même sentiment là-bas. J'avais parlé à mes confrères là. Contraire du Doubs, qui parlait que personne n'aimait l'équipe à ce moment-là. Et mine de rien, c'est cette équipe-là qui avait réussi à la faire monter avec Casano à l'époque qui jouait. Voilà.
Avec quelques résultats locaux pour balayer ce qu'il reste de sport collectif. Le FC 27 qui était maintenu a mal fini la saison à la maison.
C'était un match d'entraînement. Hein, voilà. Match d'entraînement, ils ont perdu 2-1. Bon. Voilà. Mais c'était une petite. Il n'y a pas une grosse fête non plus. Il y a eu quelques petites choses de fête pour l'année prochaine. Mais surtout, ils avaient fait le travail avant et ils se sont maintenus sans avoir besoin de nouveau règlement pour être. Parce qu'ils sont trois places au-dessus du dernier. Donc voilà. Mission accomplie, on va dire, même si ça a été quand même plus tendu qu'on ne le pensait.
Après, quand même, du côté de l'UFC 27, signaler les bons résultats de la formation et de la préfo, avec les U17 qui restent en national et les U19 qui montent en national.
Ouais, c'est très rare hein, d'avoir un bel assortiment comme ça, avec une équipe qui va être en national 3 l'année prochaine, c'est la nouvelle appellation du CFA2, et puis donc avoir deux équipes de jeunes en national, ça veut dire que quelque part tu vas pouvoir t'alimenter par toi-même, et c'est plutôt intéressant quand on sait qu'il n'y a plus trop d'argent qui est donné dans les subventions, et surtout il n'y a plus d'argent de donner aux joueurs, donc ça c'est très bien.
Autre résultat, alors pareil, ils avaient été cherchés.
Passy aussi, pour mettre une petite anecdote, c'est Passy qui monte, qui rejoint. Donc l'année prochaine, on aura enfin des derbies Passy-Évreux, comme on aimait les voir, au niveau national. Donc ça va être sympa.
C'est plus sympa encore.
Voilà, très bien.
Autre résultat d'un sport local qui avait déjà gagné son maintien, mais par contre qui a bien fini à la maison, Saint-Cé Hand, qui a voulu remercier en finissant bien un trio historique, Échaud, Briand-Briand, ou Briand-Échaud-Briand, ouais. comme vous voulez.
Échaud-Briand.
26-22, victoire contre Soissons, qui par contre, Soissons avec... dans son effectif, normalement, un international Hugo, un international tunisien, un international machin, venait jouer son maintien à Saint-Cé. Et ils ont été menés tout le match et ils ont vraiment rien tenté du match et c'était très décevant. Saint-Cé a fait le job en faisant tourner aussi, en faisant rentrer, je pense à Peter, leur Norvégien. Bjørn Røgaard, c'est imprononçable, c'est un peu comme Bjørn Dalen, mais on a plus l'habitude de le dire.
de le boire.
exactement, voilà. Taulier de l'équipe réserve qui quitte le club et du coup qui a été pour sa dernière à Saint-Cé et joué en N3. C'est plutôt sympa au gars d'avoir fait le boulot aussi avant pour se permettre de faire rentrer tout le monde. C'est aussi agréable pour finir par une belle fête du côté de Coubertin. Voilà. Autre résultat de Hand, on parlait de Passy, on reste dans la CAP avec le retour du SMV quand même en Pro D2. On essaiera de suivre ça après.
On va suivre, je pense que ça va être ça
l'année
va être
prochaine,
sympa.
Ça fera partie des clubs qu'on suivra un peu plus du coup.
Ouais, ça va être bien justement de revoir une équipe. Ils sont passés par les playoffs et puis il y a un gros engouement qui est renaît au Grévin là-bas, donc ça commence à. C'est vraiment un endroit où vit le Hand et ça va être chouette aussi de retrouver l'équipe de Benjamin Palvoni. Je sais pas comment on dit son nom. Palvoni. Voilà. Ouais. Je mélange toujours je suis dyslexique quand je le prononce. Et ça va être sympa de retrouver la deuxième division nationale.
Et donc pour dire Saint-Cé, donc finit la saison à la septième place.
Ouais.
Mais on rappellera surtout l'incroyable retournement de situation hein, sur un championnat qui compte 22 journées. Au bout de 7 journées, ils étaient à 7 défaites.
Il ne faut pas forcément virer un entraîneur. Et puis,
ils ont viré des joueurs. Autre choix, ils ont viré.
C'est plus simple des fois.
Ou ils ont fait revenir un joueur et ils en ont viré deux en même temps. Qui n'étaient pas dans l'état d'esprit propre au club. Voilà. Non. Et voilà, donc ça a plutôt matché en faisant confiance aux jeunes. Mais on y reviendra tout à l'heure, peut-être avec Fabrice.
Ouais, on va en parler. Bon, on fait nos coups de cœur tout de suite, peut-être pour évacuer le truc et faire un grand truc avec Fabrice après, non ?
Alors moi, avant, je veux finir.
Parce que t'aimes pas trop en même temps, c'est toi qui
décides. Je
voudrais que ce soit comme ça, mais c'est toi le patron.
Mais justement, je suis le patron. Déjà, il reste un résultat en local à donner. C'est le résultat de l'EAC Athlétisme qui était en.
Qui était en finale
National 2 à Tours-la-Ville. Et donc, record battu pour le club.
Deuxième de suite.
Ouais. Voilà, deuxième record. Ça grimpe. Pourquoi ça grimpe pour les, parce que ça bosse. Il y a des meilleurs résultats dans des disciplines qui étaient un peu faiblardes avant, avec des jeunes qui commencent à arriver. Et notamment, il y a 2-3 perfs à retenir. Le record de leur marcheron à la hauteur, 1,74, nouvelle marque pour l'ex-championne de France cadette.
C'était son objectif justement de les dépasser. Je crois qu'elle les a passées une fois à l'entraînement ou je sais pas quoi, mais elle avait jamais refait. Son objectif c'était de refaire un 74-75 pour s'approcher au plus vite possible d'un 80.
Voilà, donc voilà, et sachant qu'elle a été un peu blessée ces derniers temps. La préparation du bac. Après, on peut noter aussi la belle course de Coralie Gassama qui était un peu dégoûté au premier tour, là c'est mieux. 60-05 sur 400 pour la protéger du groupe de Lyon là. Le renfort de Robin Moussel avec le AC Triathlon sur 3000 steeples aussi qui fait du bien. Et puis, toujours avec l'EAC.
J'espère qu'il n'a pas nagé dans la rivière, par contre.
Après, ouais. Après les bons côtés aussi de l'EAC triathlon et de l'entente avec l'EAC athlétisme, c'est les 1,56 de Kevin Dos Santos sur 800 mètres. Parce que, à côté de ça, Évreux bat son record en ayant laissé à la maison la championne de France cadette 2010 du 800 mètres, Floriane Bernard, en ayant laissé Juliette Gamanel, championne interrégionale de cross-court, qui était blessée aussi sur 3000. Donc, voilà, un vrai vivier de points aussi, dû à la création d'une équipe 2 qui rate la montée en N3 de 45 points. Sur un total de 29 000, il en a manqué 40, ouais. 45, donc ça se joue vraiment à pas grand-chose.
Ouais.
C'est 3 secondes sur un 3000 steeple, c'est 20 cm sur une montée de barre à la perche, c'est vraiment des petits points, voilà, mais surtout le gros truc, c'est pour la première fois, il y avait une équipe 2.
Ouais.
Et ça, c'est important pour la vie du club parce que ça permet d'alimenter par en dessous et de ne pas être en casse-tête pour partir en finale, vu que tu as plus d'athlètes qui se préparent à une compétition sur cet échange-là, donc plus de monde concerné, donc plus facile à gérer.
En tout cas, bravo le SAT.
Ouais. Oh.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Allez, un petit coup de musique et puis on voit après comment on gère la suite. Voilà. Et ben, je vous propose d'écouter. Aujourd'hui est un jour spécial, donc je vais me faire plaisir. Je vais vous mettre. Mais c'est peut-être un message subliminal justement pour la LM. On y va, Miossec.
On va quand même tenter le coup, on va quand même tenter l'exploit. On y va, même si on ne sait pas vers où, même si on ne sait plus vers quoi. On y va, on va pas rester sur nos genoux, on est bien plus grand qu'on ne le croit. On y va, quitte à se casser le cou, quitte à s'en mordre un jour les doigts. Et même si on tombe sur des roches, et même si on tombe sur des cas, que veux-tu que l'on se reproche? Que fait-on dans ces cas-là? On y va. Si on nous prend pour des fous, c'est déjà fait depuis longtemps, je crois. On y va. On va quand même tenter le coup, on va quand même tenter l'exploit. Et même si ce n'est pas tout proche, et même si on ne connaît pas l'endroit, que veux-tu que l'on se reproche? Que fait-on dans ces cas-là? On y va. On n'a pas fait comme on a dit, on a changé.
Eh bien voilà, c'était le bon vieux Miossec.
Ils ont été meilleurs, Pedretti a tout commandé sur le terrain. Mais celui-là, quand il va venir à la Mosson, on va s'en occuper.
Ah oui, à quoi vous faites allusion?
On va s'en occuper. Non, je ne parle pas de l'arbitre, parce que l'arbitre a fait son travail et tout, mais lui, c'est une petite tarlouse.
Bon, allez.
Tu ne l'as pas chaque semaine, la semaine d'ailleurs, on l'a déjà eu.
Ouais, mais je l'aime bien en ce moment. Non, et puis c'est la fin du foot, il s'est passé plein de belles choses. Et justement, allez, on va lui faire...
Montpellier s'est fait sortir, en top 14.
On va lui faire plaisir, on va lui faire plaisir, on va faire nos coups de cœur, nos coups de gueule de l'actualité sportive du moment. Allez, voilà. Fabrice, t'as eu le temps de regarder un peu de sport ce week-end à côté
du
de ça,
sport,
non
pas du basket, du vrai sport. Non,
pas la NBA, pas la NBA.
L'Olympiakos,
juste l'Euroleague hier.
C'était juste extraordinaire. L'ambiance qu'il y avait là-bas à Istanbul, c'était incroyable.
C'est un autre monde.
Ah ouais, c'est incroyable. On parle de supporters, mais on est à je dirais, 1% de ce qu'eux sont supporters. C'est incroyable.
Et toi, ton regard coach sur ce coach-là, Obradović?
Ah, c'est une légende.
Ouais.
Justement, pour rentrer dans la confidence, on s'est échangé des SMS avec Rémi Vallin hier.
J'ai cru que t'avais Obradović. T'as pris du galon, putain.
Et donc, on se disait qu'on avait quand même pas mal de chemin à parcourir. Ouais. Quand on regarde le monsieur, non, mais c'est
d'ailleurs, faut rester complètement cinglé, parce que je sais pas, t'as vu comment il pourrit ses joueurs alors qu'ils sont à plus 15. À un moment, il y a, je crois que c'est même Bogda qui fait une connerie. Il te le pourrit, mais incroyable, incroyable. C'est le 9e titre avec 5 clubs différents, c'est ça. Ouais.
Et c'est le premier titre d'un club turc, hein, préciser.
Et justement, c'est même presque surprenant, parce que tu te dis que ces clubs-là, depuis le temps, qui sont vraiment au top niveau, ils jouent depuis quelques années. Déjà l'an passé, là, ils étaient tombés sur le CSKA en finale, là, et ils avaient très bien joué, mais il y avait Nando qui était en feu à ce moment-là. Et Nando, ils ont fait 3e, là, quand même, ce qui est pas mal non plus, hein, mais je pense qu'il le méritait. Puis à Istanbul, quoi, c'était juste, ça devait être une nuit de folie, quoi.
Damianski.
La défaite de Cleveland, je suis méchant, mais bon, en même temps, j'ai aucune crainte pour eux. Ils vont aller en finale. Voilà, la finale est dessinée depuis de longs mois. On va sûrement voir 99,9% de chances qu'on voit un Golden State Cleveland.
Moi, je suis pas d'accord pour de longs mois, parce que je pense que les Spurs avec Leonard et Parker, oui, sur pied, ils avaient leur mois à dire.
Sauf que bon, vu les éléments et les blessures, ça paraît mal emboîté. En tout cas, Cleveland affrontait Boston après avoir gagné 2 matchs à Boston, et ils étaient à domicile. En plus, blessure d'Isaiah Thomas, All-Star, meneur All-Star d'1m75, on rappelle. Très intéressant et qui a out jusqu'à la fin des playoffs. Et ils l'ont emporté, incroyable mais vrai, à Cleveland. Alors, ça ne remet pas un énorme suspense, hein, tout est relatif. Mais en attendant, Cleveland perd son premier match des playoffs parce qu'ils avaient fait 2 sweeps, ce qu'on dit dans le milieu, c'est-à-dire 2x4-0, préalablement sur les 2 tours précédents. Donc 2-1 pour Cleveland. Je ne me fais pas trop d'inquiétude non plus quand même pour eux. Et puis Golden State qui mène de son côté 3-0 avec malheureusement pour San Antonio. David Lee qui s'est blessé en plus, je crois... sur la 3e rencontre. Donc c'est tronqué, quoi, c'est final, mais bon, de conférence.
Ouais, bah moi, pour dire, je vais vous parler de foot, parce que je trouve qu'on a eu la Ligue 2 et comme la Ligue 1 ont réservé quand même comme la Pro B d'ailleurs en basket, une dernière journée vraiment. On parle de championnat dense, mais là franchement la densité était incroyable, et il y a eu des renversements incroyables à la fois en Ligue 2 où tu avais 6 équipes qui pouvaient monter. Et en l'espace de 5 minutes, je crois, Lens qui était à un moment qui était deuxième est passé à la 4e place, c'est-à-dire la place du couillon, parce qu'ils n'ont rien du tout. Tout ça parce que t'as 3 qui repassaient devant après avoir été mené 2-0, et puis parce qu'Amiens marque un but à la dernière, au bout des arrêts de jeu, quoi. En Liga, il y a Caen qui sauve sur un but après avoir loupé un péno, et le gars qui loupe le péno marque un but à la 96e minute au Parc des Princes devant le PSG, ce qui est juste incroyable. Donc se sauver là-bas, c'est assez, assez grandiose. Là-dessus, derrière, t'as Lorient qui fait la tronche, t'as Nancy. Enfin, il y a plein d'équipes qui se sont battues jusqu'au bout.
Et par contre, il y a la nouveauté des barrages quand même.
La nouveauté des barrages, c'est plutôt sympa.
C'est compliqué. Hein, c'est deux dynamiques complètement inverses.
Hein, généralement, ça va plutôt, c'est plutôt favorable, mais ça permet quand même de donner une autre chance à une équipe qui est en Ligue 1. Généralement, il y a pas mal d'investissements, et c'est vrai que ça donne des chances, une chance supplémentaire pour se maintenir. Et puis voilà, on verra bien. Ça reste du sport quand même pour le jeu. C'est pas une pièce jetée en l'air, donc c'est plutôt sympa.
Qu'on voit tous les ans avec la Coupe de France. Hein,
Oui, voilà, c'est pour ça que c'est plutôt pas mal. Mais ça, et puis bon, et voilà, il y a eu un peu de suspense aussi en top 14, mais je trouve que le foot, pour une fois, c'était vraiment, vraiment pas mal. Alors, je crois que j'ai vu aussi un autre truc, je crois que c'est les Celtics de Glasgow qui ont remporté leur championnat sans perdre un seul match, je crois, 32 victoires, 2 nuls, enfin, un truc incroyable. Puis la Juve, 6e victoire, Real,
Real et Zizou, ouais,
avec Zizou quand même. Monaco, ouais, alors qu'on pensait que c'était quand même. Moi, je pensais que ça serait une bille un peu au niveau entraîneur au départ, à la base, bah, parce que je pensais que
c'était juste un bon entraîneur joueur avec lui, mais.
Oui, non mais quelque
c'est
part,
un bon manager.
Voilà, ouais, ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi, mais
je sais pas comment
quelque part, il gère super bien les égos de tout le monde parce que il a réussi à rendre
Ronaldo humain.
Non, pas humain, mais altruiste parce qu'il fait des passes aussi.
Il a réussi à se faire réapprécier Karim Benzema.
Et est-ce qu'il y a un petit message à Deschamps sur le but marqué ou pas?
Ouais, oui, bien, oui, forcément. Non, bah... Forcément, mais je vois même pas. Moi, je trouve que la démarche de Deschamps, elle est vachement intelligente parce que voilà, il privilégie le groupe et que voilà, le plus dur, c'était pour moi de le faire au départ. Maintenant, voilà, faut aller au bout. Et puis, je pense pas que la façon de régler ses comptes via la presse va aider à la limite. Je pense que toi, ils ont tous les deux leur numéro de téléphone, ils s'appellent, ils s'expliquent, ils disent voilà, il y en a un qui prend position, dit écoute, récemment, j'ai changé. Voilà, je pense que ça peut être très bien. Dès que tu commences à t'étaler, c'est tout foutu, quoi. J'en suis bien, je suis bien placé pour le savoir. Tellement de coachs qui nous parlent et nous demandent de faire les intermédiaires que... non, je rigole, mais non, sérieusement, il y a eu un très beau week-end de foot,
très beau dénouement. Patron, il y a un coup de cœur, lui?
Il y en aurait plusieurs, mais il y a quand même
le ZRF aussi en fait en tennis qui va être intéressant.
Non, t'avais dit un,
merde, pardon.
Déjà qu'on a mis où tu voulais, alors non, il y a un truc pour moi où... Ah, c'est la victoire du Racing en top 14 sur son match de barrage à Montpellier. Eux qu'on disait morts, au final ils se sont réveillés, ils ont été chercher la place de barragiste sur les dernières journées. Puis là ils ont été gagnés à Montpellier. Est-ce qu'un animal blessé va pas être dangereux?
Cette fusion bidon entre le FC France et machin, là, les deux clubs en fait.
Les deux clubs, ouais. Comme quoi il y a quand même un aspect...
Moi j'ai plus qu'ils me sortent Clermont. Là, ouais.
Et du coup on a deux belles finales avec Clermont-Racing et le remake de l'année dernière, La Rochelle-Toulon. Voilà. Je pense que ça va envoyer un peu du bois.
Ouais, puis je pense que La Rochelle va avoir beaucoup de mal à Marseille... Il y aura du Toulonnais, à mon avis, ça sera difficile. Ouais.
Et autre chose importante en rugby, quand même, on n'a pas parlé du Stade Rouennais, mais qui a été gagné à Lavaur de 10 points, 24-34, il me semble, ou 14-24, je ne sais plus, mais il y a 10 points, plus 10 avant de recevoir. Ils ont fait le job, ils avaient été très sales à la maison contre Nîmes, en ayant perdu plus de 20 points, alors qu'ils avaient gagné de 35 là-bas. Personne n'avait apprécié, le capitaine avait... envoyé dès le soir même ses excuses aux partenaires, aux élus, à tout le monde, parce que voilà, ils n'avaient pas eu un comportement entre guillemets professionnel, même s'il l'a pas écrit comme ça. Voilà, ils se sont bien ressaisis. Ils sont à un match de la finale du Jean Prat, ce qui serait historique s'ils vont au bout. Voilà, on se rappelle, hein, il y a 4 ans, ils avaient été barré par Angoulême, soyons Angoulême qui est maintenant en Pro D2, et voilà, donc ça, le projet a pris un peu de retard, mais voilà, c'est dans la bonne lignée. Je crois qu'on a fait le tour, petit jingle et puis on continue.
Allez.
Bon alors, la tactique elle est simple, hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez.
Oh, Spivak. C'est ce qu'il a dit, numéro 10. Les Polacks qui leur chiaient sur la gueule.
Bon, alors celui-là, il touche plus un ballon. Hein. À la première occasion, tu lui prends la canne.
Ces types vous méprisent. Alors, vous avez 45 minutes pour régler vos comptes.
Est-ce que on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec sa haine.
Fabrice Lefrançois qui dit à Corinne, tu sais qu'il y a le numéro 7 en face qui a dit que t'avais un prénom de gonzesse quand même. Et hop, ça a marché.
Ça a marché, bravo. Ouais. Il a trouvé comment provoquer quelque chose.
On revient avec
Fabrice Lefrançois.
Fabrice Lefrançois.
Sur la dernière journée aussi, ouais. Parce que je pense qu'on sur le match. Vous voulez commencer par le match, je suppose. Hein.
Ouais, par le match.
Parce que le match, voilà, déjà la condition sine qua non pour que la LM soit en play-off, c'est qu'il fallait gagner à Boulazac. là où c'est pas très simple, là où
on entendait Claude encore Rémi Vollin dire il y a pas longtemps qu'il s'était fait défoncer.
Là où Claude Bergeau a pris les rênes à sa façon, je dirais, en poussant Antoine Michon qui est dehors. Alors Antoine Michon faisait un gros travail depuis quelques années, mais voilà, ça n'a pas surpris.
En lisant le jour même sur les sites spécialisés que Claude Bergeau veut absolument cette victoire pour le classement au play-off. Voilà. Donc quand même plein d'ingrédients qui sont contre.
Voilà, tu sais que ça va pas être simple. Et là, il y a Fabrice Lefrançois qui arrive avec ses gars et se dit, bah, tiens, on va les gagner là-bas.
Bah déjà, je vais jouer sans Rémi. Hein,
déjà,
en
voilà.
Plus, bon,
voilà,
voilà. Déjà, non, mais
c'est, bon, déjà, il a, c'est, voilà, c'est peut-être lui qui a marché sur le pied de Rémi Dibault. D'ailleurs, on va lui demander.
Pour le coup.
Non.
Non, encore.
Ça donne une réponse là ou...
Non. Enfin, en tous les cas, voilà.
Enfin, dès le début du match, hein, Fabrice.
Vous êtes dedans dès le début, ouais.
Alors, non, 9-0, pas, 9-0
ouais,
après.
Ouais. Pas tout de suite, parce qu'effectivement, les 3-4 premières minutes, c'était un peu compliqué pour nous. On n'arrivait pas à être efficace en attaque et on concédait beaucoup de rebonds offensifs défensivement. Donc du coup, on leur donnait des deuxièmes chances et l'écart s'est fait comme ça, sur les rebonds et sur leur jeu rapide. Et une fois qu'on a réglé un petit peu ces deux problèmes-là, on a pu rentrer dans le match. On savait qu'effectivement là-bas c'était un peu la guerre parce que c'est une équipe qui maillotche comme on dit dans le jargon et que voilà, Zionveni, Tang, etc. ça envoie un petit peu. Ce sont des très très bons joueurs mais ça envoie et il fallait être prêt à ça et puis même être capable de donner plus que ce que eux nous donnaient. Donc voilà, on a réussi à rentrer dans le match grâce à ça en proposant des situations aussi offensives collectives intéressantes. Et puis voilà, les gars après ont montré vraiment du caractère, même dans le troisième quart-temps quand on arrive à moins 5 à un moment donné. Et après tout de suite, je trouve que les gars ont vraiment pris sur eux pour éviter les situations de frustration, comme il est un peu trop arrivé cette saison. Ils ont pris sur eux en restant dans une dynamique et une démarche positive et ça a fonctionné, donc c'est bien.
Après, sur les statistiques, on voit quand même, il y a deux trucs marquants. Tu l'as dit, vous êtes fait défoncer hors bon sur le match.
C'est sur
la tenue du ballon où vous faites. Vous perdez
6 balles
perdues.
C'est
la meilleure de l'année.
En fait, le truc, c'est que je pense qu'on avait bien préparé ce qu'on voulait faire en attaque. Voilà, on savait qu'ils étaient capables de proposer deux types de défense et on a bien préparé le truc. Je trouve la semaine d'entraînement, les deux entraînements offensifs de la semaine ont été de qualité, avec beaucoup de concentration et de rigueur. Donc voilà, on a récolté les fruits derrière. Et puis après, effectivement, on a subi au rebond, mais l'impact était déjà fait au premier quart-temps. Et après, ça s'est un peu mieux régulé, quoi. Ça s'est équilibré. Mais c'est aussi qu'on a fait, une vraie, vraie performance défensive dans la régularité, et qui était vraiment, vraiment intéressante.
Ce qui est intéressant aussi de voir, quand j'ai suivi le match là sur le lnb.fr là, et on voit vraiment que la LM est dominatrice vraiment dans le deuxième mi-temps vraiment, et on voit que c'est le sens du match va en faveur d'Evreux, et ce qui est, c'est quand même assez rare là, pour être souligné quand même, que de voir que l'équipe elle maîtrise le match, elle panique pas, à un moment ça revient à 3 points. Ça panique pas, toi. Et puis ça a défendu parce que moi je suis impressionné. Je veux dire franchement, parce que je commençais à un moment, j'ai cru que c'était un peu un gars qui était un peu fichu du club. C'est par Aloysius Anagoni qui au départ, moi j'ai traîné la semaine. Je me rappelle du match au Havre, je suis allé voir où il fait un airball à 2 mètres du cercle. Je dis oh là, il a plus rien dans le jus, quoi. Il a plus de sac, quoi. Et puis là, tu vois que le gars, depuis quelques matchs, il monte vraiment, vraiment en régime. Moi, je le trouve très bien. Il se positionne. Je pense que toi, tu le vois peut-être encore mieux. C'est-à-dire que tu te rends compte peut-être de son rayonnement sur toute l'équipe. Mais vraiment, il est plus rigoureux. Et moi, franchement, je suis impressionné. Je pense que le facteur X, c'est certainement lui, quoi, en ce moment.
Je ne sais pas si c'est le facteur X, mais effectivement, en tout cas, il contribue. À la bonne marche du groupe. Je trouve que depuis qu'on travaille ensemble, il rentre vraiment dans son rôle et dans ce que j'attends de lui, et effectivement sur la partie basket, mais aussi sur la partie humaine. Donc ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'un joueur de son expérience, il n'y en a pas forcément dans tous les clubs, et c'est rassurant à un moment donné sur le terrain.
Ouais. On a vu aussi, enfin, moi j'ai bien aimé, je suis assez fan du gars, mais Kyle Walker, même si effectivement c'est un gars qui a besoin de voir souvent le ballon, mais franchement il en fait de belles choses. Même pareil pour Corey Henry, hein, des fois on le trouve un peu trop individualiste, mais là bon, il fait 6 passes, il fait jouer, il joue en 25 minutes, il marque autant de points que quand il jouait 35 minutes avant avec Laurent Sierra, et je trouve que là pour le coup il est plus dans une démarche. Quand il faut y aller, il y va, mais je trouve qu'il est quand même plus dans la construction. C'est pas vraiment pour moi le meneur type que j'apprécie, mais habituellement quoi. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il est vraiment, il fait des progrès. Et je pense qu'il doit être, il doit certainement plus répondre à tes attentes.
Bah, on sait que ces deux joueurs-là sont des joueurs talentueux. Ça, c'est une évidence. Qu'ont toujours fait des bonnes stats sur les saisons précédentes. Maintenant, il faut trouver le juste milieu, le compromis entre être capable effectivement d'apporter des choses individuellement, mais c'est surtout permettre à l'équipe d'être efficace. Hein. Et on peut leur reprocher plein de choses à ces deux gars-là, mais ils abandonnent jamais. C'est-à-dire qu'ils peuvent entrer dans la frustration. Corinne, par moment, avec les arbitres, il peut rentrer dans la frustration, mais ça reste vraiment deux bons gars avec lesquels j'ai vraiment plaisir à travailler et à collaborer.
On
passe sur la
ouais, on va parler de l'adversaire, mais c'est vrai que...
Bon, Samir aussi, ouais. je voulais en parler, parce qu'à un moment, il y a eu un petit embrouille, mais j'ai vu qu'il a fait des entrées intéressantes. Le petit Kevin aussi, qui a joué titulaire, donc du coup, pour le coup, un poste 4. Mm-hmm. C'est plus un backup, là, il a promotion
express. On en avait parlé contre
Promotion express, il y a trois matchs, il était troisième, il rentre pas avant. Hop, après backup, et là, maintenant, titulaire. Je pense que le ciel est sa limite.
C'est ça. Bah, ouais, non, mais... Moi, Kevin, j'adore, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après, Rick Mons a vraiment tenu.
Meilleur rebondeur du match.
On en parlait en micro ouvert, mais c'est vrai que Rick Mons, qui n'est pas toujours concerné du coup par les matchs.
C'est qu'il est un peu pâteau.
Sur ses entrées en jeu, c'est compliqué. Et voilà, là, il avait vraiment besoin de lui, il a répondu présent et c'est top quoi. Pouvoir compter sur tout le monde quand il y a besoin.
Voilà, puis l'excellente nouvelle, c'est donc le retour là, de Kevin Corr pour le prochain match en playoff. Non ? Pardon, j'ai dit que
En tout cas,
salle de sport, ça sera bien.
Avant de parler de Lille, Fabrice, quand même, et tu nous le disais hors micro, mais que nos auditeurs auditrices entendent, c'est toi qui apprends en fait que au-delà de la victoire, les résultats des autres équipes, parce que c'était, il y avait un schéma multiple, hein, on pouvait l'emporter mais ne pas être qualifié.
Ouais, il fallait qu'il y ait deux résultats positifs pour Évreux sur les quatre équipes qui étaient potentiellement qualifiables avec la LM, à savoir Poitiers, Nantes, Blois et le dernier, Poitiers, Nantes, Blois et Le Havre. Le Havre recevait Bourg, qui devait sortir encore. Il faut savoir 2 grammes dans chaque œil, je pense, parce qu'ils ont fait la fiesta depuis une semaine. Donc
normal.
On pouvait se dire que ça allait être difficile pour Bourg de faire une surprise. Les deux autres équipes, les deux autres duels qui étaient les plus probables, c'était deux duels qui opposaient des équipes qui jouaient leur maintien contre des équipes qui jouaient la participation en play-off, à savoir Vichy-Clermont qui recevait Blois, et donc Boulogne-sur-Mer qui recevait Nantes. On pouvait penser que les deux allaient gagner. Or, ça s'est passé. Alors, Vichy-Clermont a gagné. Vichy gagne sur un triple de Wehr, sur un rebond offensif. Je ne sais pas si tu l'as vu, là, à 6 secondes de la fin. Et Blois a une dernière position où il ne score pas. Mais Blois est devant quelques instants avant. Et puis, donc, à 6 secondes de la fin, tu as donc Vichy-Clermont qui donne, je dirais, un plus 1 pour un des résultats pour la LM. Malheureusement, de l'autre côté, c'est Nantes qui, alors qu'à un moment, Boulogne avait très bien débuté, Nantes est passé devant et a dominé. On se disait que c'était cuir. Je pense que tu devais avoir à peu près la même.
Non, a priori, il n'avait pas les infos.
T'as pas eu d'infos ?
En fait, nous, on a commencé à se poser la question pour le résultat quand il restait 20 secondes et voilà, qu'on était sûr de gagner.
Ouais. Et donc, on peut avoir l'anecdote ?
Alors oui. Alors le truc, c'est que du coup, donc il reste une vingtaine de secondes et on fait le dernier stop. Donc on a le ballon. On devait être à plus 5, plus 6. Donc tu sais que voilà, c'est un peu plié. Et donc je vais en bout de banc vers Adrien qui nous aide là sur les pros. Et je dis alors on a des résultats un petit peu, etc. Et donc voilà, il se met à chercher. Là, la fin de match se passe. Et puis il y a Sylvain, un grand cas, assistant, qui me dit c'est pas forcément en notre faveur. Et donc voilà, on est content d'avoir gagné, etc. Bon, les gars, en fait, à la nouvelle salle de Boulazac, il faut prendre l'ascenseur pour le vestiaire.
Ouais, pour remonter.
C'est ça. Donc on peut pas tous y aller en même temps. Donc les joueurs montent. Et moi, j'étais là à réfléchir à ce que j'allais, discours, ça, voilà, j'allais réfléchir à ce que j'allais dire aux gars, voilà, avec un discours en disant bon bah on a fait le job mais malheureusement là résultat voilà. Et là j'entends le speaker de la salle qui annonce que Denain a gagné à Poitiers. Et alors que je sais même pas si les gars avaient regardé ce résultat là quoi, parce
c'est
que
exactement
personne
ça, c'est
pensait
exactement,
que Poitiers allait perdre.
Je vais te donner une petite anecdote aussi tiens pendant ce temps là, c'est que le père de Drake Reed qui joue à Poitiers maintenant a pris un billet d'avion qu'il a trouvé à 1300 balles. Et il est arrivé pour voir les play-offs de son fils, quoi. Et le pauvre, il peut repartir aussitôt. Il peut peut-être venir voir Evreux, ça vous allez l'inviter.
Ouais, voilà. Il vient quand même.
Et puis si Drake il veut jouer gratuitement, tu lui dis qu'il peut venir en ça.
C'est ça, on va le naturaliser. Ouais. Passeport, ça se fait facilement maintenant. Et donc voilà. Donc du coup, j'apprends que Denain a gagné à Poitiers. Voilà. Et après, j'entends que Vichy gagne contre Blois. Alors effectivement, je pense que j'ai monté les marches encore plus rapidement que notre président élu récemment à l'Élysée. Et je suis monté dans le vestiaire et les gars n'avaient pas le résultat en fait. Ils attendaient, ils ne savaient pas si c'était définitif ou pas. Et donc c'est à ce moment-là que je leur ai dit que c'était plié quoi. Et donc voilà, c'est la première fois de la saison où je les ai vus sauter, se prendre dans les bras, être vraiment heureux de partager un truc ensemble. Donc c'était vraiment, vraiment sympa.
Bravo.
Ah, c'est bien.
Et la suite donc Lille.
Ouais, Lille.
Alors donc, rappelle
les
dates.
Les quarts de finale se jouent en trois matchs, hein, comme les demi-finales et la finale. Le premier match a lieu vendredi 26 à Lille, donc chez le club le mieux classé. Le match retour aura lieu dimanche, donc c'est bien, c'est le retour du pont de l'Ascension. Donc tout le monde sera rentré à Évreux à 18h à la salle Sport, horaire inhabituel, mais c'est un horaire sympa, hein, l'horaire apéritif. 18h pour le match 2. Si les gars de Fabrice ont la bonne idée de gagner le match 1, ça serait bien d'avoir le match 2 pour jouer et attaquer directement la suite. Et puis donc le match 3 éventuellement aura lieu à Lille le mercredi suivant. Sachant que dans les autres quarts de finale, Fos-sur-Mer va recevoir une équipe de Rouen qui est en perdition, parce que Rouen ils sont à plus 22 à un moment et ils ont perdu après prolongation à cause d'un panier, un superbe panier de Dickey Edwards qui a changé le vide de Saint-Chamond, et Saint-Chamond se battait pour son maintien. Donc du coup Saint-Chamond a brillamment obtenu, moi je suis content pour eux parce que je trouve qu'ils ont fait vraiment du bon boulot. C'est une équipe qui a peu de moyens par rapport à Rouen notamment et ils ont réussi à aller décrocher quelque chose de bien là-bas. Donc il y a Fos-sur-Mer va recevoir Rouen, donc Lille-Évreux. Charleville-Mézières va recevoir Nantes, ça va être un duel assez incertain. Et puis le dernier match, ce sera Le Havre qui donc a gagné son maintien, qui va aller jouer le premier match à
Boulazac.
Voilà. Et donc on retrouverait le vainqueur de ce match-là, je crois, hein, c'est ça, après le vainqueur du match Boulazac-Le Havre, si on avait la chance de battre une équipe qui, je crois que tu avais un petit... T'as été content de les retrouver justement parce que c'était un match assez mauvais on va dire.
Lille c'était le 5 mai qu'on remette les ingrédients.
Il n'y a pas longtemps.
On les reçoit le 5 mai.
On avait pris une leçon de collectif hein, je pense ce soir-là. Hein.
On prend pas une toise.
Non, pas une leçon de collectif, une leçon de discipline.
De discipline collective alors.
Ouais, voilà. C'était pas... voilà, je pense que quand on parle de collectif, on parle de mouvement de ballon, etc. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas réussi à faire sur ce match-là. On n'avait pas forcément été très très rigoureux dans nos placements offensifs et aussi dans nos choix défensifs. Même si on n'avait pas pris beaucoup de points, on n'avait pris que 67. Hein. Mais ça ne correspond pas en tout cas à ce qu'on voulait produire. Et voilà, donc non, c'est bien.
Tu es content d'y retrouver, ouais.
Ouais, ouais. Ça me va bien, enfin, quel que soit après l'adversaire.
C'est pas un gros public en plus, ça, là-bas, à Lille ?
Ouais, après, sur des playoffs, les salles peuvent se transformer un petit peu. Hein,
vendredi soir pendant le pont.
Mais en tout cas...
J'ai des annoncements de 500 personnes. Hein.
Après, voilà, quoi qu'il arrive, public, pas public,
Il y a quand même deux ingrédients, bon, parce que maintenant, on commence à bien connaître l'équipe de l'ALM Évreux, c'est qu'en face, il y a ce coach qui a son joueur quand même, son fils comme joueur dans l'effectif. Par ailleurs, très élégant joueur de basket, à relever à plusieurs reprises quand même, Lucas Seric, c'est très beau à voir jouer.
Futur joueur de Euroleague.
Ah non, mais clairement. Non, mais c'est, en tout cas, de haut niveau.
Tu penses vraiment ?
Ah, moi, je le pense. Hein.
Ah oui.
Ah, moi, en tout cas,
il est très jeune.
Il a 20 ans. Je ne sais pas si c'est Euroleague, mais très haut, c'est sûr et certain.
Il a le profil physique, technique, tactique.
C'est mental, ouais, il a tout, les fondamentaux de fou. Ouais, non, mais il est magnifique à avoir joué. C'est très beau à avoir joué ce genre de joueur. Et puis, bon, Jean-Victor Traoré, forcément qu'on connaît, qui a déjà fait mal à plusieurs reprises face à son ancienne équipe, celle d'Evreux, mais qui avait été un petit peu en deçà. Il faudra se méfier. Junior Mbida, qui lui, un coquin, un sacré de la division aussi, qui a aidé à l'époque Monaco à monter. C'est un solide à l'intérieur, un peu pénible à jouer. Puis, si tu disais tout à l'heure, il y avait une expression pour les joueurs qui mettaient.
Maillochet.
Un peu le genre. Brian Pamba, qui nous avait. Qui n'est pas réputé pour être le plus adroit du championnat, mais qui est un coriace en défense.
Ah oui.
Qui avait un peu posé quelques soucis à Corinne, sans que ce soit grandissant, en tout cas, qui avait en plus marqué 2-3 paniers. Bref, en fait, c'est pas une. Attention, j'ai oublié. Ce fameux Polonais, je crois, qui a été signé, qui avait pas été monstrueux face à Evreux, mais qui avait été solide, qui avait déjà fait un ou deux cartons avant et qui en a refait depuis, parce que là, par exemple, il a fait mal à Rouen là, il y a 8-10 jours. Ce joueur-là, et c'est un peu le facteur X avec Traoré, mais qui est installé maintenant, c'est pas une mauvaise recrue, hein, Marivov, je crois. Ouais. Marinov, voilà.
C'est un Bulgare, non ? C'est pas...
C'est un Bulgare.
Bulgare, pardon, j'ai dit. Ouais. Donc voilà un petit peu l'équipe qui a pas non plus 6 joueurs intérieurs avec un ancrage de fou dans la raquette.
Ouais, bon, ça tient la route, hein,
bien sûr.
Mais ça, c'est une vraie équipe. Hein. Tu sens déjà, voilà. C'est une équipe quand même qui est sur une dynamique assez positive.
Bah là, ils ont gagné leurs 5 derniers matchs.
Ouais, c'est ça. Hein.
Donc déjà, bon, ça pose qu'on est capable de gagner 5 matchs de suite en Pro B. C'est qu'il y a une équipe qui effectivement s'est construite dans la discipline, dans l'effort effectivement collectif. Un gars effectivement comme Brian Pamba, qu'on connaît bien ici, qui est capable d'impacter tout de suite le meneur. Et qu'on sait que voilà, le meneur, c'est un peu la clé du basket, bah, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, et puis après, c'est que des jolis joueurs qui sont assez complémentaires. Parce qu'on n'a pas parlé de Jones non plus, etc. L'Américain, le poste 2, qui fait des choses et qui nous a mis... Ils avaient mis un joli panier avec la planche à Évreux quand on revenait à 2 points. Donc non, ça va être une confrontation assez sympa.
C'est d'ailleurs, Fabrice, on les a joués donc il y a un mois, trois semaines. C'est même plus intéressant pour le coach que tu es, je crois, comme beaucoup de tes confrères, mais où toi aussi tu ne lésines pas sur le sujet, sur la vidéo, sur l'équipe adverse, sur ses faiblesses ou ses points forts, sur ta préparation de ces playoffs. Le fait de les avoir joués à 3 semaines, c'est presque un plus, toi, dans ton approche ?
Oui, c'est intéressant parce qu'on a des enseignements, on peut prendre des informations sur ce qu'ils sont capables de proposer face à nous. Après... la problématique de ça, c'est trouver le juste équilibre entre effectivement ce qu'on appelle faire du scouting, donc préparer selon l'adversaire, et ne pas quitter ton identité de jeu. Voilà. Donc il faut pas tout le temps s'ajuster, parce que celui qui s'ajuste, généralement, c'est celui qui perd. Donc voilà,
il faut être vigilant. On dit toujours, un entraîneur, c'est celui qui est capable de mettre en avant ses points forts et de réduire ses faiblesses. Et sur un match comme ça, c'est ça.
Ouais, là, c'est encore différent, mais...
Tu ne peux pas changer. Mais ça revient à ça.
De toute façon, les joueurs sont...
Ils ne vont pas changer.
Voilà, on les a pour, entre guillemets, faciliter la performance.
Tiens, on va faire un petit pronostic sur les matchs. La fausse Rouen.
J'ai pas le droit de parier, c'est interdit.
Non, tu paries pas, tu t'engages.
On met autour de la table.
Café de l'e-sport, c'est juste qu'il faut y
venir. Moi, je dis fausse.
C'est pas fausse. Pas,
moi, je dis fausse.
Fausse sur mer.
Fausse, oui.
Fausse. Ouais, fausse.
Ouais, moi aussi.
Okay. Mais attention, Rouen.
Oui, bah, Rouen, ils ont le talent pour, hein, mais ils ont pas la dynamique, hein, par contre.
Rouen, ils ont pas la dynamique. Après,
intrinsèquement, c'est une belle équipe.
Hein, je m'étais dit, bon, ils sont qualifiés depuis longtemps, ils vont revenir en forme parce qu'ils vont avoir le temps de charger en travail. Sauf qu'à un moment donné, il faut remonter aussi pour la confiance, et là, il n'y a jamais eu de remontée.
La problématique, c'est qu'à Fos, pour y gagner, il faut être très, très, très solide. Fos a l'avantage du terrain.
Ouais, c'est vrai. Charleville-Nantes.
À voir si Hermanson joue ou pas.
C'est une vraie question.
C'est le premier truc. Après, Nantes, pareil, ils sont sur une très très jolie série. Ils ont gagné 5 des 6 derniers matchs, je crois. Donc voilà, après, si Hermanson est là.
C'est Charleville,
je pense plus. Charleville.
Moi aussi. Ouais.
D'accord. Et donc, Boulazac, Le Havre, je pense que c'est plus Boulazac.
Boulazac
ont l'avantage du terrain. Après, c'est pareil, Le Havre, ils sont sur une jolie série là. Donc. Ils ont du répondant. C'est une équipe qui, les deux équipes maillotent vraiment, parce qu'on peut Diakosa et Zion
Venice. Diakosa qui va retrouver son ancien club, ça peut toujours être assez. Mais ça va pas forcément être du très beau basket.
Après, il y a du joueur, ça va jouer, mais ça va maillotcher quand même.
Bon. Programme là, du programme coup, la LM Évreux s'entraîne jusqu'à jeudi. Jeudi,
vous décollez. Tu récupères à dire, Rémi Dibault, alors c'est quoi là, ouais, son aussi. Bobo là, ouais. Il va jouer ou pas?
En fait, il avait pris un coup alors sur le bras.
Et ah, c'est sur
avait,
le bras
ouais, qui avait complètement. Comment dire? Qui avait bloqué toute la flexion de son avant-bras. Donc en plus, bras droit, donc pour quelqu'un qui utilise un peu son bras, c'est un peu compliqué. Donc voilà, les images n'ont rien montré d'alarmant ce week-end. Donc.
Devrait récupérer. Donc,
il devrait être à dispo.
Là, ouais, là tu as t'affilé donc des jours de repos, je suppose. Pour,
on reprend, ouais. Bah, on reprend juste cet après-midi.
Cet après-midi ouais.
Voilà, on a eu une petite manifestation avec les jeunes basketteurs du département de l'Eure, voilà, parce qu'il y avait la fête du
mini-basket.
Hein, ouais. C'était vraiment sympa, ouais, et voilà, ça fait partie de.
Ça devait être sympa aussi d'y aller pour partager, parce que je suppose qu'ils devaient être contents de recevoir quelques félicitations.
Donc, mais l'entraînement, on reprend ça cet après-midi. Voilà,
départ jeudi Départ jeudi comme d'habitude?
Non, départ vendredi matin.
Ah non,
départ vendredi matin.
Donc vous laissez tomber le match 1 déjà d'entrée, et puis donc.
On a vu des préparations la veille qui payaient pas.
Il y a quand même deux infos.
C'est pas prévu dans le budget.
Et Blois, on est parti le jour même. On a gagné.
Ouais, voilà.
C'est bon, d'accord. Voilà. Mais c'est pas mal, le Visibition Commando, c'est la famille Valin qui aimait bien faire ce truc-là. Ouais,
vous partez avec deux minibus.
Et c'est Fabrice qui conduit.
Fabrice qui conduit l'autre. Et puis voilà.
C'est Sylvain qui conduit l'autre. Voilà, c'est tout ça.
Non, mais c'est pas un souci. On va se préparer au mieux pour être prêt.
En tout cas, c'est gratifiant et tu dois être très satisfait de cette qualification. Même si tu en faisais peut-être pas un objectif prioritaire, je sais pas si tu peux nous l'avouer aujourd'hui, mais ça doit être dans un coin de ta tête forcément.
On peut parler quand même de la vraie revanche d'Einstein quand même. Einstein quand même, mais...
On arrive sur une question.
Ah, c'était la fin.
On le disait tout à l'heure, moins 1 plus 3.
Ouais. Ah, c'est pas mal.
Pas avec le même nombre de matchs, mais,
non, ouais, mais ouais,
moins 1 plus 3.
Non, c'est cool.
Non, après, effectivement, il y a deux mois et demi, quand on m'a confié cette mission-là, je me rappelle de ce match contre Saint-Quentin où on est là à être vigilant sur le point d'avérage parce que
ouais,
pour le maintien,
on
parlait vraiment de maintien à l'époque et que Saint-Quentin n'avait qu'une défaite de plus que nous. Et voilà, et puis c'est vrai qu'après, on s'est pris en jeu, on a commencé par une série, etc. Après, c'est fait de haut et de bas, mais au final, effectivement, le bilan est de 9 victoires, 6 défaites sur les, sur les 15 bien. Matchs. Et non, c'est que du positif, et c'est bien de valider ce cheminement-là par les play-offs, quelque chose que les gens, au final, n'attendaient plus trop. Et mon souhait, c'est vraiment qu'on arrive maintenant, même si le temps maintenant est limité, et voilà, mais... qu'on arrive à avoir cette communion avec le public dimanche pour leur offrir
et est-ce que le fait ou juste on va aller un peu plus loin que les playoffs, peu importe l'issue, est-ce que le fait de valider une qualification, ça va pas te permettre aussi au travers de certains joueurs de construire l'équipe prochaine et de pas repartir sur un 80-20 mais un 30-70, 60-40 où c'est déjà trop tôt?
Trop tard.
Non, mais l'année dernière, ça a été le problème, c'est qu'on a commencé le recrutement des uns et des autres très tard, et des joueurs. Et là, c'est vrai que le fait de pouvoir valider une belle fin de saison, c'est super, mais pour préparer, c'est aussi compliqué.
Ouais, après, tout est compliqué, rien ne sera facile dans ces situations-là, parce que le fait d'avoir. Si à l'heure actuelle, on était en vacances, on aurait peut-être travaillé sur le recrutement, sauf que les joueurs. Bah, certains sont encore en activité, certains sont en play-off, etc. Les nôtres, ceux qu'on veut garder, bah, regardent peut-être le marché. Voilà. Donc, non, il n'y a pas forcément de timing lié à la compétition. Après, le risque que tu peux prendre, c'est de dire, bah, ok, tu fais des gros play-offs, et puis le joueur, il prend en valeur. Et nous, on sait qu'on ne peut pas forcément rivaliser en termes de
patrimoine. Il y a une bonne nouvelle, c'est que la qualification quand même pour les play-offs donne 30 000 euros de subvention à la LM.
Je crois que c'était 50.
Non, mais moi aussi, je crois que c'était 50, mais c'est 30. Il y aura peut-être un petit coup de pouce après de l'aglo. Mais...
Fabrice, première rencontre sur le banc en tant qu'entraîneur officiel, premier victoire. Deuxième point, tu finis avec un bilan à la positive. Mm-hmm. Troisième point, tu aides à contribuer à qualifier l'équipe en play-off. C'est quoi le quatrième?
Ouais, moi je sais, il me l'a dit. Il a dit qu'il avait coché plusieurs choses.
C'est final.
Avec le dernier. C'est du secret.
On le dit pas. Non, mais il y a un quatrième intéressant quand même qu'on peut relever, ça allait plus loin là.
Bah, nous,
là, c'est le bonus.
On est là pour ça.
Ouais.
On est là pour ça. Et si on, voilà, on est compétiteur. Et je pense que le fait d'avoir gagné à Boulazac montre qu'on pouvait aller gagner à l'extérieur contre c'est des gros du championnat.
Eh ben, on ferme. Merci.
On va fermer, hein, parce
merci,
que,
merci.
Déjà, le tenir, il a risqué l'amende à tout instant.
Merci au CSA de nous avoir autorisé 20 minutes de plus. Désolé, JC, c'est toi qui rempliras le dossier.
Non, mais un cadre particulier. Et si voilà. Vous venez de nous on avait l'entraîneur de la LM Évreux qui a grandement aidé à qualifier l'équipe en play-off.
Et on espère lundi prochain, tous les joueurs dans les studios pour fêter la qualif. La qualif, ouais.
À lundi, Fabrice, ouais, si on est passé en deux tours, on peut t'empêter. Mais non, merci. Merci d'avoir répondu présent. On l'a appelé ce matin, il s'est rendu disponible. C'est très agréable et ça a souligné aussi.
Ciao.
Christian 2016, c'est un génie!
Essai! Pas vrai! Deux fois, ça, c'est pas vrai!
Chut! Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but!
Et troisième but!
But d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute!
Oh là là, chute de Mélanqui, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain!
Ça y est, Sheffield est parti! L'Express, le TGV est parti, Sheffield! 9,58, record du monde!
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin.